Avec le podcast de Traverser la frontière, prenez votre dose d'inspiration et d'évasion avec les incroyables histoires de Français qui ont décidé de quitter la France pour vivre à l'étranger. Si vous avez envie de voyager, changer de vie ou simplement d'ouvrir votre horizon, découvrez chaque semaine les parcours variés et les précieux conseils de nos invités pour enfin passer à l'action. Je vous laisse maintenant avec Michael pour ce nouvel épisode.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 4 du podcast de Traverser la frontière. Je voulais vous remercier d'écouter encore une fois ce nouvel épisode et cette nouvelle interview. Alors l'invité du jour s'appelle Fabrice Bernard. Donc Fabrice, il s'est d'abord expatrié en Suisse pendant près de 10 ans avant de tout plaquer pour aller vivre au Cambodge. Donc au Cambodge, il a créé depuis 2012 son agence de voyage qui s'appelle Tokai. Donc une agence de voyage qui emmène tous les voyageurs hors des sentiers battus et qui permet de découvrir le Cambodge autrement. En fait, Fabrice, c'était la toute première interview que j'ai faite pour le projet et le podcast de Traverser la frontière. Donc voilà, je le remercie encore chaudement d'avoir participé à cette aventure. Et sans plus attendre, on retrouve Fabrice pour l'interview. Oui, bonjour Fabrice.
Bonjour Michael.
Ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va, ça va. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu as fait ces dernières années et où est-ce que tu en es aujourd'hui ?
Avec plaisir, bonjour à tous. Je m'appelle donc Fabrice. Je suis né en 1980 en France, à Strasbourg. J'y suis resté pendant longtemps jusqu'à mon bac. Après, j'ai fait une école de commerce à Angers, en France toujours. Et c'est à ce moment-là que je suis venu au Cambodge pour la première fois, c'était en 2001, dans le cadre d'une mission humanitaire de 2 mois, donc c'était très très court, qui au final s'est transformé en mission de 6 mois, puisque le pays m'a tellement plu que j'ai décidé de rester un peu plus longtemps que prévu. Puis je suis rentré en France pour finir mes études, ça nous ramène à 2003, où tout fraîchement diplômé, je commence à travailler en Suisse pour la Chambre de commerce française en Suisse. J'y suis resté 9 ans. Et au bout de 9 ans, on a pris, mon ami et moi, la décision de revenir au Cambodge pour un petit moment de vie, ce qui s'est concrétisé en 2012. Et donc, depuis 2012, je vis avec beaucoup, beaucoup de plaisir au Cambodge.
D'accord, ok. Donc, tu habites au Cambodge. Et rapidement, tu peux me dire ce que tu y fais ?
J'ai créé ici une petite structure d'accompagnement de voyageurs. Donc, je travaille en réceptif sur le Cambodge et sur le Cambodge exclusivement. Et j'emmène des voyageurs à la découverte du pays.
D'accord, ok. Ça marche. Donc la première fois que tu es venu au Cambodge, tu m'as dit c'était en
2001,
ok. Et donc depuis 2001, tu as tourné donc plusieurs fois au Cambodge. Ou tu peux me raconter un peu ton histoire avec ce pays ?
Alors 2001, j'arrive ici dans le cadre de ce projet humanitaire. C'était mon premier gros voyage à l'étranger, première découverte de l'Asie du Sud-Est. Gros coup de cœur pour le pays, la raison pour laquelle je suis resté 6 mois et pas 2 comme prévu initialement. Après 6 mois, j'étais toujours un peu frustré de mon apprentissage du pays, de la langue, de la culture. J'en avais pas eu assez, donc je suis revenu en fait pendant les 10 années qui ont suivi le plus souvent possible. En l'occurrence, je suis revenu 5 fois en 10 ans, parce que c'est pas un voyage qui se fait forcément facilement. Ça demande un petit peu d'argent, ça demande du temps. Donc 5 fois en 10 ans avant de m'installer ici définitivement. Et à chaque fois, j'essayais de découvrir de nouvelles provinces, de revoir mes amis cambodgiens, d'en profiter au maximum pendant 2 ou 3 semaines de voyage.
D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'attire tant chez le Cambodge ? Qu'est-ce qui te fait revenir, on va dire, à chaque fois ?
Revenir au Cambodge, alors ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent. C'est pas forcément facile d'y répondre. Ce qui m'a attiré en premier lieu au Cambodge, c'est évidemment la différence, parce que c'est un mode de vie qui est complètement différent de ce que je connaissais avant en Europe, que ce soit en France ou en Suisse. C'est les Cambodgiens, ça, tout le monde va le dire, hein, tous les Européens, tous les Occidentaux qui passent par le Cambodge sont d'accord sur le fait que les Cambodgiens soient des gens extrêmement souriants et plutôt très accueillants, ce qui est commun d'ailleurs à l'Asie du Sud-Est. Sur l'Asie du Sud-Est, le Cambodge fait encore partie des pays top en matière d'accueil, donc il y a la population qui m'a vraiment beaucoup plu. Les paysages, le climat, le fait que tout soit très marqué, soit très positivement, soit très négativement. Le fait de vivre dans un milieu, comme je disais tout à l'heure, qui est complètement différent.
Ok. Ça marche. Du coup, je voudrais parler un petit peu de ton expérience en Suisse, parce que tu m'as dit qu'en 2004, Donc, tu as décidé de t'expatrier en Suisse,
Oui.
c'est ça? Et du coup, est-ce que tu peux me dire bah, pourquoi tu as décidé de partir de la France pour aller en Suisse, bon, qui n'est pas très loin, mais quand même, et me dire un petit peu ce que tu as fait comme travail là-bas?
Alors pourquoi j'ai décidé de partir de France? Bah, tout simplement parce que depuis très jeune, en fait, l'international m'intéresse. L'international, c'est quoi? C'est le voyage, c'est la découverte culturelle, c'est le fait d'interagir avec des gens qui n'ont pas mon vécu, qui n'ont pas mon contexte culturel. Je trouve que c'est très enrichissant. Et à la fin de mes études, j'ai trouvé une opportunité d'emploi en Suisse, en l'occurrence en Suisse alémanique, à Zurich, donc dans un cadre germanophone. Et j'ai accepté de relever le défi parce qu'effectivement, c'est un pays qui est juste à côté de la France, limitrophe à la France. On peut avoir tendance à croire que la différence n'est pas énorme avec la France. Et en fait, elle est beaucoup plus importante que ce qu'il n'y paraît. Voilà, c'est pour ces raisons, donc premièrement professionnelles, mais des raisons professionnelles qui sont liées à mon intérêt personnel pour le voyage, pour l'international et pour la découverte.
D'accord, ok. Et du coup, c'était quoi ton poste là-bas?
Alors là-bas, j'ai travaillé pendant 9 ans au sein de la Chambre de commerce française en Suisse, qui est, pour la faire simple, une entreprise privée à but non lucratif. Et mon rôle au sein de la Chambre a été multiple. J'étais d'abord chef de projet, donc en charge du développement de toutes les activités de la Chambre de commerce sur la Suisse alémanique, puisqu'on n'avait pas de bureau en Suisse alémanique, et c'est la raison pour laquelle j'ai été embauché. Donc, accompagner des entreprises françaises sur des recherches de distributeurs, des recherches d'entreprises à racheter, des recherches ou des créations de filiales, et également la dynamisation du réseau d'affaires francophone en Suisse alémanique. Donc, rencontrer la plupart des entreprises françaises implantées en Suisse alémanique et organiser des conférences, des débats, des rencontres diverses et variées qui permettaient à ces entrepreneurs-là de faire du business ensemble.
D'accord, ok. Et t'as fait ça du coup pendant combien de temps là?
Au total, pendant 9 ans.
Pendant 9 ans, d'accord, ok. Et tu parles justement des différences entre la Suisse et la France, tu pourrais en nommer quelques-unes?
La langue, déjà. Tant
Ouais.
en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, on pense souvent qu'en Suisse romande, on parle français. En fait, oui, on parle français, mais c'est pas tout à fait le même français. Et surtout, on pense pas de la même façon. Donc, il est clair qu'entre les deux, il y a beaucoup de différences. En Suisse alémanique, on parle suisse-allemand. Donc, ça, c'est un gros morceau aussi. Parce que c'est pas de l'allemand. C'est une langue, enfin, c'est un dialecte à part entière. Un dialecte qui est quand même parlé par 5 millions d'habitants en Suisse, pour les 7 millions au total du pays. Donc, c'est pas rien. Et quand on parle le dialecte, que j'ai eu la chance d'apprendre d'ailleurs. Quand on parle ce dialecte, on arrive évidemment à s'inclure beaucoup plus facilement dans la population. Il y a ça, il y a la mentalité qui est différente, il y a évidemment beaucoup plus de rigueur, je pense, notamment en Suisse alémanique, qu'en France, une certaine rigidité qui est liée à cette rigueur. Ça veut dire que ben, un engagement est tenu, mais du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour l'inattendu, pour la prise de d'initiative, pour la créativité. Et du coup, la France et les Français sont reconnus en Suisse pour leur côté créatif, indéniablement.
Ok, ça marche. Et du coup, tu as passé 9 ans en Suisse et tu te retrouves en Cambodge. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette expérience en Suisse et qu'est-ce qui t'a incité en fait à tout plaquer là-bas pour aller au Cambodge, quoi.
En fait, c'est plus l'inverse qui s'est passé, puisque j'ai d'abord vécu au Cambodge pendant ces 6 fameux mois en 2001, et ensuite je suis parti en Suisse. Donc le Cambodge, en fait, ça fait maintenant 13 ans que j'adore ce pays. J'ai pas eu le courage et j'ai pas trouvé le projet qui me permettait de vivre au Cambodge avant 2012. Enfin, c'est plus un processus de maturation, d'idées, d'envie, de motivation et de capacité financière aussi qui m'ont permis d'arriver au Cambodge en 2012. Mais la transition, pour répondre à ta question plus en détail, entre la Suisse et le Cambodge, effectivement, c'est un grand écart parce que je suis passé de l'un des pays les plus riches à l'un des pays les plus pauvres au monde, d'un pays européen, au moins dans la mentalité, à un pays asiatique, où la culture, les normes, les valeurs sont pas du tout les mêmes, les relations interpersonnelles sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Bah, déjà mon goût pour les extrêmes. J'aime beaucoup passer d'un extrême à l'autre. Parce que ça permet de se remettre pas mal en question. Ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'on a à un moment donné et ce qu'on n'a plus le lendemain et de tout ce qu'on peut construire autour d'une nouvelle situation. Je considère que c'est vraiment une énorme chance de pouvoir changer de pays et puis d'arriver à un endroit en se disant « voilà, devant moi j'ai une feuille blanche et je peux écrire l'histoire que je veux ». C'est une énorme chance, ça fait peur aussi, mais quand on arrive à relever le défi, on en sort grandi et on apprend énormément de cette expérience-là. C'est le fait d'être persuadé que rien n'est immuable, rien n'est définitif non plus. J'ai quitté la Suisse pour venir au Cambodge, peut-être que je retournerai en Suisse plus tard, peut-être que j'irai ailleurs plus tard. Pour le moment, je suis très heureux au Cambodge et c'est tant mieux.
D'accord. Donc, est-ce que c'est plus un processus, du coup, il n'y a pas eu un événement particulier, un déclic particulier, c'était plus un processus, on va dire, de long terme pour l'envie, en fait, d'aller vivre au Cambodge?
Dès 2001, dès la fin de mes 6 premiers mois au Cambodge, j'ai dit à qui voulait bien l'entendre qu'un jour ou l'autre, je reviendrai vivre ici. Mais c'était ces espèces de projets qu'on a en tête, on ne sait pas très bien comment les réaliser, c'est plus un rêve qu'un vrai projet. On se dit, bon, un jour, si je peux le faire, je le ferai. Et puis petit à petit, l'idée a fait son bonhomme de chemin. Par moments, j'y pensais beaucoup moins, par moments, j'y pensais beaucoup plus. J'étais très heureux en Suisse, j'avais un boulot qui me plaisait énormément, avec une équipe qui me plaisait énormément, des conditions de vie qui étaient très agréables. Et en 2011, j'ai refait un voyage ici avec mon ami, avec ma maman et une amie de ma maman. Et après ce voyage, on s'est décidé à revenir ici, en se disant, bah voilà, ça fait 10 ans qu'on n'arrête pas de dire à tout le monde qu'on a envie de vivre au Cambodge. Il serait temps qu'on réalise ce projet-là. Donc il y a quand même eu un
D'accord.
déclic. Il y a tout un processus effectivement intellectuel de j'ai peur de le faire, donc j'en parle, mais j'ose pas passer le cap. Jusqu'au moment où on se sent capable de le faire et on sent que ben il y a tout un contexte dans une situation donnée qui fait que c'est le bon moment. Et clairement, en 2011, quand on a décidé de revenir ici vivre au Cambodge, ben, à ce moment-là, on s'est dit il faut qu'on le fasse maintenant, sinon on le fera pas plus tard. Donc c'est un peu comme une préparation sportive ou enfin même si la comparaison peut paraître un petit peu saugrenue, mais il y a vraiment le sentiment de préparer un projet et de le réaliser quand on se sent prêt, quoi.
D'accord, ok. Et comment ça s'est passé au niveau pratique, le fait de quitter ton job, de quitter la Suisse pour aller vivre à l'étranger, le fait de démissionner, etc. Comment ça s'est déroulé?
Ben ça s'est très très bien déroulé dans la mesure où on s'est laissé le temps de faire les choses proprement. On ne voulait pas quitter trop vite la Suisse ou l'Europe et on ne voulait pas arriver trop vite au Cambodge. Donc ne pas quitter trop vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps de préparer la passation. Comme je te le disais, j'avais une situation très confortable en Suisse qui me plaisait beaucoup. Et ça me tenait à cœur de donner tout ça proprement à quelqu'un qui allait prendre ma suite professionnellement. Et puis pour moi, me laisser le temps psychologique de me dire aussi, ok, la Suisse, c'était une page que je tourne pour ouvrir un nouveau chapitre ailleurs. Et
D'accord.
préparer l'arrivée au Cambodge, ça voulait dire se renseigner sur les faisabilités d'emploi ici, puis une fois que la décision a été prise de créer une entreprise, ben, contacter des spécialistes en la matière ici au Cambodge, à distance depuis la Suisse, pour leur demander les procédures, évaluer les coûts, monter un business plan, commencer à prendre des contacts au niveau perso aussi avec des gens qui nous mettaient en relation avec des amis au Cambodge. Relancer des contacts personnels aussi au Cambodge en disant on va venir dans quelques mois, on sera ravis de vous revoir, aidez-nous à nous intégrer de la meilleure façon. Et ça, au final, ça prend du temps et ça fait que l'année de préparation qu'on s'est accordée pour faire cette transition-là, elle est passée extrêmement vite. Et je pense qu'un an, c'est pas énorme en fait pour préparer un projet comme le nôtre.
Ouais, c'est sûr. Donc du coup, tu as décidé de créer une... Bon, j'appelle ça une agence de voyage, mais c'est correct ou pas?
Oui, alors moi j'appelle ça une solution pour accompagner des voyageurs, mais c'est la même chose.
Ok, ça marche. Bon, comme ça, les gens agence de voyage, ça leur parle peut-être un peu plus. Mais du coup, tu as décidé de créer cette structure, cette solution d'accompagnement pour les voyageurs. Je veux dire, pourquoi tu as décidé de faire ça?
Parce que quand on est rentré de ce fameux voyage en 2011 qu'on a fait avec ma mère, quelques semaines après, ma mère m'a dit, ça a été le pire voyage de ma vie matériellement, parce que la pauvre, on l'a vraiment pas épargnée. On a fait des trajets de 14 heures en bus, on a dormi dans des guest houses à 4 $, enfin des choses qui n'étaient pas forcément très adaptées pour une dame de plus de 60 ans. Et en même temps, elle m'a dit, donc ça a été le voyage le plus éprouvant de ma vie matériellement, et ça a aussi été le voyage le plus beau de ma vie, pourtant elle en a fait beaucoup. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, bah parce que vous m'avez permis de rencontrer des gens et de voir des endroits que j'aurais jamais trouvé toute seule. Et là, je me suis dit, bah on a quelque chose dans les mains qui peut intéresser d'autres personnes, d'autres voyageurs, et notamment cette catégorie de voyageurs qui a déjà beaucoup voyagé de par le monde, qui ne veut pas faire du tourisme de masse, qui ne veut pas que se retrouver dans un endroit sans avoir, en partant de cet endroit, vraiment le sentiment de l'avoir découvert. Donc des voyageurs qui se positionnent sur de la découverte, de l'aventure et aussi du confort, parce qu'en général, ils ont des revenus et un âge qui correspond à un certain niveau de confort, quoi. Et c'est-à-dire que quand tu emmènes des voyageurs sur des choses un peu extrêmes dans la journée, quand tu pars faire un trek de 2 jours dans la jungle, ou tu dors en bivouac, dans un hamac, et que tu passes la nuit dans la forêt, ou quand tu descends le Mékong en kayak et en vélo, et que parfois tu tombes en pleine mousson dans une averse tropicale, bah, le jour d'après, c'est sympa de descendre dans un hôtel joli, colonial, avec une piscine, une bonne table, où tu peux goûter la vraie cuisine cambodgienne.
D'accord, donc t'es un peu, donc Tokay, cette agence de voyage, elle est un peu un mix entre le, comment dire, l'aventure et la détente en même temps, et vivre des expériences un petit peu inédites, non?
Oui, tout à fait. J'essaie d'accompagner mes voyageurs un petit peu plus loin que leurs limites. C'est-à-dire que je considère que mon boulot, c'est d'emmener justement des voyageurs là où ils ne pourraient pas aller seuls, où ils n'oseraient pas aller seuls.
Et du coup, au début de cette aventure, donc Tokay, au début, quand tu as créé cette agence, ça n'a pas été trop compliqué justement de trouver des clients, c'est-à-dire des gens qui allaient te payer pour que tu leur fasses découvrir un petit peu le Cambodge autrement?
Bah écoute, j'ai travaillé à la création de l'offre pendant 6 mois, pendant laquelle j'ai fait 3 fois le tour du pays pour trouver des endroits qui me plaisent à moi et des activités qui me semblaient intéressantes pour des voyageurs. Et puis ensuite, j'ai créé le site internet et aujourd'hui, toute ma communication est basée en ligne sur le site, sur le blog Tokay. Et il y a toute une image qui doit correspondre à l'offre, qui fait que, en réalité, la réponse du marché, la réponse des voyageurs a été assez rapide à arriver. Et j'ai surtout eu la chance d'avoir énormément de contacts en Europe, de par mon expérience en Suisse, de par mes réseaux personnels en France, qui m'ont dit, a priori, ce que tu vas créer au Cambodge, ça peut nous intéresser. Donc, dès que l'offre est prête, tu nous l'envoies. On va en parler autour de nous parce que ça correspond à une nouvelle façon de voyager qui est de plus en plus répandue. Et ça a marché assez rapidement.
D'accord, donc en gros ton réseau t'a permis, ton boulot en tout cas sur l'offre, et ensuite ton réseau t'a permis d'avoir en tout cas tes premiers voyageurs que t'as pu accompagner, quoi.
Oui, et puis il y a eu beaucoup de tests évidemment, hein. J'ai accompagné des gens en leur disant ok, bah là vous êtes mes premiers voyageurs, faites-moi votre tour, dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et j'adapte. Et il y a un moment dans ce genre de projet, faut se lancer, et puis faut pas avoir peur d'essayer des choses, faut pas avoir peur de se tromper, de pas forcément réussir à 100% dès le début. Vaut mieux, je pense, avancer petit à petit en ajustant au fur et à mesure que d'attendre que tout soit absolument parfait. C'est vrai pour une expatriation, c'est vrai pour un projet de création d'entreprise, c'est vrai pour plein de types de projets. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en avançant qu'on adapte une offre et qu'on s'adapte à une clientèle, à des voyageurs, à des gens avec lesquels on va travailler, etc.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Rien ne peut être parfait du premier coup, ça c'est impossible. Il faut du temps. Ok, du coup, c'est quoi un séjour type chez Tokay? Tu prends combien de personnes avec toi? Vous partez pendant combien de temps? Vous faites combien d'activités, etc.?
Alors, je pars avec combien de voyageurs? Je m'engage à partir avec maximum 6 voyageurs, donc c'est vraiment des tout petits groupes, parce que les endroits où on va se prêtent pas à faire du séjour en tourisme de masse, et parce que c'est pas le type de tourisme qui me plaît prioritairement. Donc 6 voyageurs maximum, souvent ce sont soit des familles, soit des couples, soit des amis. Mais rarement des gens qui ne se connaissent pas d'avant, donc il y a toujours un creuset de base qui fait que l'ambiance est presque garantie, parce que les gens qui arrivent se connaissent déjà. Après, la durée du séjour et les activités sont complètement configurables en fonction de chaque voyageur. Comme je disais, ma vision de mon travail, ma pertinence, ma valeur ajoutée, c'est d'emmener des voyageurs là où ils ne pourraient pas aller forcément tout seuls, par faute de temps ou par faute de connaissance du pays ou par faute de... de « je maîtrise pas le cambodgien », enfin les voyageurs ne maîtrisent pas le cambodgien, et dans certaines provinces, sans parler un minimum cambodgien, c'est un peu plus compliqué. Et même à Phnom Penh, souvent, donc la capitale, je ne vais pas forcément proposer à mes voyageurs de les emmener là où ils peuvent aller seuls. Tous les endroits qui sont recommandés dans le Lonely Planet, dans le guide du Routard et d'autres guides, je ne vois pas quelle plus-value je vais avoir à les faire visiter à des voyageurs. En revanche, aller dans des petits quartiers inattendus, encore très populaires, où des voyageurs ne vont pas en général, bah là, ça me semble intéressant.
Ok, et du coup, ça dure combien de temps en moyenne ?
En moyenne, je suis sur des accompagnements qui vont durer 15 jours, parce que on est quand même loin de la France, donc souvent les courts séjours sont quand même rares. Moins d'une semaine, c'est difficile, parce que le trajet prend déjà presque 24 heures aller et 24 heures retour, de porte à porte. Donc si on a envie d'en profiter un peu et de se remettre un minimum du jet lag, c'est quand même bien de rester 10 jours minimum. Et je suis allé jusqu'à des accompagnements qui ont duré plus de 3 semaines.
D'accord, ok. Et donc c'est toi qui accompagne à chaque fois les voyageurs, ou tu as des gens qui le font avec toi ?
Alors aujourd'hui, j'accompagne tous les voyageurs. Et je suis en train de former d'autres accompagnateurs parce que j'ai trop de demandes et parce que c'est intéressant aussi de pouvoir proposer différentes personnalités aux voyageurs en fonction de leur profil et de ce qu'ils attendent.
Ça marche. Ça fait du coup, si je calcule bien, ça fait près d'un an et demi que tu as lancé Tokae.
C'est ça, ouais.
Je crois.
Ouais, tout à fait.
Et quel bilan tu tirais, bon, même si c'est encore tôt, je pense, mais si tu devais tirer déjà un petit bilan de ces un an et demi, de ces expériences et tous ces voyageurs que tu as rencontrés, ce serait laquelle ?
Alors, je vais faire deux bilans. D'abord, le bilan professionnel, l'offre fonctionne. J'aime ce que je fais aujourd'hui, c'est très complet comme métier. J'aime faire découvrir le Cambodge parce qu'en plus, ça me permet à moi de continuer à le découvrir, et ça, c'est absolument génial. Ça me permet de rencontrer des voyageurs aussi qui, à chaque fois, ont des histoires qui leur sont propres et de créer des relations qui, très souvent, débouchent à des choses assez jolies. C'est-à-dire, quand on passe 2 semaines ou 3 semaines ensemble, on a forcément le temps de faire connaissance et de beaucoup discuter. Ça me plaît beaucoup, ce rapport humain. Donc, l'offre Tokae, effectivement, fonctionne. On est sur un marché de tourisme ou d'accompagnement de voyageurs qui est répondant, qui est validé. Et je pense que la plupart des voyageurs occidentaux, du moins, vont tendre vers ce type d'offre. Voilà, ça, c'est pour l'aspect professionnel. Pour l'aspect perso, je suis complètement ravi de vivre au Cambodge aujourd'hui. C'est réellement un rêve qui s'est réalisé. Il m'a fallu du temps, hein, pour venir vivre ici, plus de 10 ans, on l'aura bien compris. Aujourd'hui, je suis complètement ravi d'avoir fait ce pas. Je suis ravi d'avoir trouvé la motivation, les ressources, le courage nécessaire. Je suis ravi d'avoir eu une famille et des amis en France qui m'ont poussé, qui nous ont poussé à passer ce cap. Alors, on est venu en couple ici, donc c'est plus facile évidemment de s'expatrier en couple parce que l'autre est une forme de pilier sur lequel on peut s'appuyer. Vivre une expatriation seule, je pense que c'est plus compliqué. Mais c'est faisable aussi. Et bon, l'avantage de venir seul, c'est peut-être que du coup, on se donne encore plus de moyens pour rencontrer du monde à destination. Mais voilà, sans vouloir me répéter, à mon niveau personnel, je suis complètement ravi de vivre au Cambodge. Et je suis ravi de rester encore au Cambodge pour un petit bout de temps. Je ne sais pas du tout combien de temps on va rester ici. Mais je sens qu'il me reste et il nous reste encore énormément de choses à vivre ici et dans la zone.
Ouais, ok, on va tant mieux. Hein. Si t'as mis 10 ans à pouvoir aller vivre en Cambodge, mais que du coup t'es ravi de le faire, c'est cool.
Exactement.
Et du coup, le futur de Tokae, c'est t'as des projets, comment tu vois la chose, ton entreprise évoluer ?
Écoute, pour le moment, le futur de Tokae, c'est surtout de garder cette dimension très, très humaine dans le rapport avec les voyageurs, pour continuer à proposer des voyages qui correspondent vraiment aux attentes des gens qui viennent ici avec Tokae. C'est de faire évoluer la structure pour pouvoir répondre aux demandes entrantes. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité à répondre positivement à toutes les demandes, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, je travaille seul. Mais demain, j'aurai quelques accompagnateurs qui pourront également partir en accompagnement de voyageurs. Ça me permettra de répondre à plus de demandes, mais je n'ai pas envie de transformer Tokae en une agence classique qui va faire du tourisme de masse et qui va accumuler le nombre d'accompagnements pour faire plus de chiffres aux dépens de la qualité. Quoi. J'ai vraiment envie de garder cette dimension très artisanale dans le métier Tokae.
D'accord, ok. Ça marche. J'avais une question plus pratique en fait pour les gens qui seraient par exemple intéressés de monter une entreprise en Cambodge. Comment ça s'est passé au niveau des procédures administratives, des visas, etc. pour s'installer là-bas?
Alors aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où la création d'entreprise est très simple, parce que le Cambodge, qui est une économie en ouverture, Cambodge qui est sorti quand même il y a 40 ans d'un génocide qui a été extrêmement dévastateur pour le pays. Donc aujourd'hui, on est dans un pays qui est en demande de création d'entreprise, parce qu'une entreprise, ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi, ça crée du trafic. Ce qui veut dire que, il n'y a pas de contrainte à la création d'entreprise. Un étranger peut ouvrir une entreprise ici et en être propriétaire à 100%. Il n'y a pas de capital social minimum à mettre à la clé. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Les procédures sont extrêmement simples, peu coûteuses. Une création d'entreprise, en fonction de la forme juridique et du domaine d'activité, ça peut coûter quelques centaines de dollars. Donc c'est quand même très abordable. Et là, on sent qu'il y a une vraie volonté du pays, effectivement, à créer de la valeur. Ça ne veut pas dire que gérer une entreprise, c'est facile, parce qu'après, il faut trouver le bon business, il faut trouver les bons partenaires, il faut trouver la bonne offre. Donc ça reste quand même une entreprise, enfin un projet qu'il faut bien réfléchir. Mais en tout cas, il n'y a pas de contrainte légale à l'ouverture de sociétés ici par des étrangers.
D'accord,
Pour
ok.
les visas, c'est pareil,
C'est.
hein. Demander un visa business, c'est extrêmement simple, c'est pas très cher. Ça coûte 280 dollars, donc à peu près 240 euros à l'année par personne. On n'est pas sur des montants qui sont complètement déconnants.
Ah, c'est sûr, donc c'est quand même beaucoup plus facile d'accès que certains pays. D'accord.
Oui.
Et du coup, donc pour rester un petit peu dans la dimension entrepreneuriale, de création de business. Si tu avais un ou deux conseils en fait aux gens qui aimeraient créer une entreprise dans le domaine du tourisme, du voyage, donc peu importe où ce soit dans le monde, est-ce que tu aurais des choses à leur conseiller?
Eh bien, le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est de connaître leur destination, évidemment, de très bien connaître le pays ou la zone sur laquelle on va proposer des voyages. Et c'est surtout de rester en contact avec le terrain. J'ai le sentiment, même si je ne suis pas formé pour travailler sur le tourisme et que j'ai appris ce métier ces 2 dernières années uniquement, j'ai le sentiment que le fait d'accompagner des voyageurs, c'est une vraie plus-value. Parce que du coup, ça permet de savoir comment ça se passe sur le terrain, ça permet de visiter des endroits, de participer aux activités, de voir de nouveaux hôtels, de penser, enfin d'avoir des sollicitations tous les jours en accompagnement qui peuvent permettre d'améliorer l'offre. Et je crois que c'est un métier, voilà, accompagner des voyageurs, ça nécessite d'être sur le terrain, évidemment, et pas forcément d'avoir une division très verticale des métiers, d'avoir une équipe qui fait de la programmation, une équipe qui fait la réservation, une équipe qui fait l'accompagnement. Moi, je crois beaucoup à la responsabilisation de chacun. Et avoir une organisation horizontale sur les métiers du voyage, de l'accompagnement de voyageurs, sur les métiers du tourisme, ça me semble être une démarche assez intéressante. Plus compliquée à mettre en place, mais assez intéressante. Ce que je veux dire par là, c'est que si la personne qui accompagne a également fait la vente du séjour et a également créer le séjour en fonction des attentes du voyageur. Là, on est vraiment sur de la personnalisation. On est vraiment sur un programme qui va être maîtrisé et qui va correspondre aux attentes du voyageur.
Ok, ça marche. On entendait un petit peu derrière toi les klaxons des tuk-tuk ou des voitures. Et du coup, moi qui ne suis jamais allé au Cambodge, comment, enfin, ça ressemble à quoi la vie au Cambodge quand on y vit vraiment et qu'on reste pas en tant que touriste, comment ça se déroule la vie?
Ça ressemble à un film. Tous les matins, quand je sors de mon appartement, que je monte sur mon vélo, je circule en vélo ici, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo par rapport à la circulation. Il y a une circulation qui a complètement rien à voir avec les circulations en Europe. On n'est pas au Vietnam, hein. Au Vietnam, c'est absolument incomparable, je crois, en matière de circulation. Mais quand même, on voit des comportements sur la route qui sont assez atypiques. La plupart des conducteurs, que ce soit du 2 roues ou du 4 roues ici, d'ailleurs, n'ont pas leur permis. Donc en général, on apprend, c'est le papa qui va apprendre au garçon, à sa femme, on apprend comme on peut à conduire. Donc il se passe des choses assez rigolotes. C'est comment? Il fait chaud. On est sous les tropiques, dans un pays exotique, donc il fait chaud toute l'année. L'année dernière, en mois de janvier, enfin en janvier 2014, on a atteint des records de température basse, puisqu'on est passé en dessous des 20 degrés, ce qui reste quand même extrêmement clément par rapport aux températures qu'on a en Europe. Et pour autant, on a eu froid ici. C'est vrai que c'est étonnant de sortir de chez soi et puis d'avoir froid alors qu'il fait 19 degrés. C'est oui, c'est cette impression d'être dans un film, cette impression d'être aussi dans quelque chose qui bouge sans cesse. C'est l'Asie et c'est l'un des pays qui a le plus fort développement aujourd'hui en Asie. Ça veut dire qu'il se passe des choses dans tous les sens. Rien ne s'arrête jamais. En matière de construction, quand on part de Phnom Penh pour un mois et qu'on revient, il y a des nouveaux bâtiments qui sont sortis de terre, il y a des nouveaux magasins là où il n'y en avait pas avant. Le restaurant qu'on adorait il y a un mois a fermé parce qu'il ne marchait plus ou parce que le propriétaire a décidé de se lancer dans une boutique de chaussures ou dans un magasin de vélo ou autre chose. Tout bouge à une vitesse faramineuse. Ça fait un peu peur, ça peut donner le vertige et en même temps c'est ultra stimulant parce qu'en Europe on est sur des économies posées qui sont à maturité, où on n'a pas l'habitude de voir des changements aussi rapides. Donc il y a ça, l'impression d'être dans un film, l'impression d'avoir tout le temps chaud, ce qui est plutôt agréable, et l'impression d'être dans un espèce de... dans une machine qui ne s'arrête jamais et qui est ultra stimulante.
D'accord, ouais, donc ça a dû bien de changer quand même de la Suisse, peut-être beaucoup plus posé.
C'est assez différent en effet, oui.
D'accord. Du coup, j'aurais une dernière question pour toi, vu que tu connais très très bien le Cambodge, donc pour tous les voyageurs qui ont prévu d'aller là-bas. Si tu avais peut-être ton top 2 ou top 3 des expériences à vivre, des choses à voir au Cambodge qui sortent un petit peu des sentiers battus, ce serait lesquelles?
Alors, en première position, je mettrais la campagne cambodgienne, définitivement. Souvent, on la traverse quand on voyage au Cambodge. Notamment quand on fait un trajet entre Phnom Penh, la capitale, et Siem Reap, dans le nord, qui est la ville d'entrée sur les temples d'Angkor. On va prendre un bus, on va traverser des rizières, mais on ne va pas s'y arrêter. Je crois que passer quelques jours dans la campagne, c'est une expérience absolument génialissime. Parce qu'on va se retrouver au milieu des rizières, qui sont plus belles d'ailleurs en saison des pluies qu'en saison sèche. Donc là, vraiment, le premier conseil à donner aux voyageurs, c'est venez en saison des pluies, parce que la saison des pluies, il ne pleut pas tous les jours, il ne pleut pas toute la journée. Il va pleuvoir entre une demi-heure et une heure chaque jour, mais du coup, on a des paysages qui sont absolument magnifiques, avec des couleurs éclatantes. On a l'impression qu'en fait, tout est saturé. Tellement il y a des verts, tellement il y a des bleus, tellement... Enfin, les couleurs nous sautent au visage. Et passer du temps à la campagne, ça permet vraiment d'avoir accès à un mode de vie qui est complètement différent, qui ressemble un petit peu à la campagne française il y a 50 ou 60 ans. C'est la remarque que ma maman m'a faite d'ailleurs quand je l'ai emmenée à la campagne. On a passé 3 jours chez des amis qui sont agriculteurs et qui vivent de leur production de riz. Elle m'a dit, ça me fait penser au village dans lequel j'ai grandi, dans ma campagne alsacienne il y a 60 ans. Donc la campagne, définitivement, si... on a la chance de pouvoir y passer un petit peu de temps, parce que c'est pas forcément évident de débarquer et de dire à n'importe quelle famille « Bonjour, je vais rester chez vous ». Mais si on a la chance d'y passer un petit peu de temps, de trouver le bon prestataire pour y aller, c'est un must, à mon sens. Et puis surtout, ça permettrait de passer du temps avec des Cambodgiens. Et ça n'a pas de valeur, quoi. Ça n'a pas de prix, c'est absolument génialissime. Deuxième destination vraiment sympa, la jungle. Parce que quand on vient d'Europe, on n'a pas l'habitude de la jungle, et faire un trek dans la jungle... pareil, c'est un univers qui est complètement différent.
D'accord, et la jungle, t'as des lieux particuliers ou...
Le Mandalkiri reste intéressant. C'est l'une des provinces à l'est du pays, sur la frontière avec le Vietnam. Et la région des Cardamomes, à l'opposé, sur la frontière avec la Thaïlande, donc à l'ouest du Cambodge, sont les deux principales régions où je conseillerais de faire un trek.
D'accord.
Et puis évidemment, j'en parle pas, mais les temples d'Angkor, c'est un must. C'est la raison première pour laquelle les voyageurs viennent aujourd'hui au Cambodge. Ce sont des temples qui malheureusement souffrent de leur fréquentation, puisqu'il y a plus de 4 millions de voyageurs qui y vont chaque année. C'est absolument gigantesque. Ces voyageurs sont principalement asiatiques, à 80%, et ce sont des voyageurs qui n'ont pas un comportement qu'on va qualifier de très respectueux quand on est européen, parce qu'ils voyagent en groupe, en masse, ils font du bruit, ils n'ont pas de marque de respect très profonde pour les autres voyageurs. On est sur des cultures qui sont vraiment différentes. Donc le gros challenge aujourd'hui sur les temples, c'est de les visiter avec le moins de monde possible. Ça reste faisable. Il ne faut pas hésiter à partir loin de la foule, à se lever tôt, à se coucher tard, à essayer de trouver des petits chemins dans la forêt qui permettent d'aller visiter pas forcément les plus grands temples. On peut tout à fait passer un moment magique sur un plus petit temple où on va être seul, loin de la foule. Si vous venez pendant la saison des pluies et que vous voyez l'averse arriver, profitez-en, c'est le meilleur moment pour aller sur les temples parce que du coup, il n'y a personne. Et puis la lumière qu'on a pendant une averse sur les temples est absolument magique. La pluie fait que la pierre brille et crée des ambiances absolument géniales, à mon sens.
D'accord. Bon, bah ça y est, je suis vendu. Je vais... ça me donne envie d'aller au Cambodge, tout ça.
Bah, je t'attends, viens quand tu veux.
Ok. Bon, bah merci pour tous ces, ces conseils et pour ton retour sur toute ton expérience au Cambodge. On va s'arrêter là et puis je te souhaite une bonne continuation dans cette aventure.
Merci, bonne continuation à toi aussi.
Merci, à bientôt, au revoir.
Au revoir.
L'interview avec Fabrice est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Et si vous voulez retrouver les liens justement de cet épisode, il vous suffit d'aller sur l'URL traverserlafrontière.com/004. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À bientôt.